dit, est dans une impasse totale. Hein. Il n'y a pas de véritable dialogue, des invitations sont lancées, certains acteurs sont à Arusha, d'autres ne le sont pas, certains acteurs décident avec qui ils veulent parler et pas avec d'autres. Et dans l'entretemps, la situation au Burundi est devenue tout de même, de façon assez progressive, très grave. Il y a eu des centaines de personnes qui ont été tuées, des centaines de milliers, sont en exil. L'aide diminue, l'économie burundaise prend un plongeon tout à fait considérable qui se traduit de plus en plus dans les indicateurs socio-économiques. Et donc, il faut faire quelque chose parce que la situation est en train de s'empirer progressivement. Et le moment viendra où plus personne ne contrôlera cette évolution.
Et donc, pour faire revenir la situation à la normale, vous conseillez aux acteurs politiques burundais de ne plus se focaliser sur la question du troisième mandat, mais plutôt faire table rase du passé, hein, c'est ça?
Exactement. Ce qu'il faut éviter, me semble-t-il, c'est qu'en 2020, et ça approche vite, hein, qu'en 2020, on se trouve dans la même situation qu'en 2015, mais peut-être même une situation pire qu'en 2015, et qu'il faudrait donc mieux voir en avant plutôt que de regarder en arrière. Et ce que je dis, c'est qu'il faudrait créer, et il faut le faire dès maintenant, les conditions pour que les élections de 2020 puissent se dérouler dans un contexte normal, apaisé, paisible, transparent. Et ça veut dire qu'on, ce que je dis dans le petit papier, je dis qu'il faut remettre les compteurs à zéro, et commencer à zéro, donc. C'est-à-dire la situation qu'on n'a pas pu éviter en 2015, essayer de l'éviter en 2020.
Ouais. Est-ce que vous croyez sur parole Pierre Nkurunziza qui a promis de ne plus briguer un autre mandat à l'issue de son mandat actuel en 2020?
Je ne crois personne sur parole, je dois dire, et pas seulement au Burundi. Hein, on voit ailleurs qu'on ne peut pas croire sur parole. Donc ce que j'ai dit également dans le papier, c'est qu'il faut mettre en place des garde-fous. D'une part, Nkurunziza, dans ma proposition, pourrait rester en 2020, mais pas au-delà. Les institutions élues en 2015 pourraient l'être mêmement. Et en échange, évidemment, on crée cet espace politique libre qui permet aux opposants de rentrer, même ceux qu'on appelle putschistes. On réforme la Commission électorale nationale indépendante pour qu'elle soit crédible pour tout le monde. On crée un contexte où la société civile, la presse, mais également les partis d'opposition peuvent fonctionner convenablement comme il se doit dans un système démocratique. Et je dis également qu'il faut, je parlais des garde-fous, qu'il faut, puisque la bonne foi ne se présume pas, qu'il faut mettre en place, me semble-t-il, deux structures. Une structure interne que j'appelle comité de suivi, mais qui peut avoir un autre nom, bien évidemment, qui réunirait le pouvoir ou les partis au pouvoir, l'opposition, la société civile, y compris les confessions religieuses, donc le champ politico-social du Burundi, et d'autre part, une sorte de commission ou du comité international d'accompagnement qui pourrait fonctionner au niveau des ambassades à Bujumbura, et qui ferait le monitoring, si l'on veut, l'évaluation constante de cette feuille de route, parce qu'en fait, on parle d'une feuille de route. Donc, en effet, je ne suis pas tout à fait naïf. D'ailleurs, je suis peut-être naïf dans ce sens que j'ai fait cette proposition et qu'elle n'a peut-être aucune chance d'aboutir. Mais au moins, si on s'accordait sur cette proposition, bon, il faut des mécanismes de contrôle extrêmement forts et fiable.
Oui, et beaucoup d'analystes, beaucoup de leaders de l'opposition, tout comme de la société civile burundaise, pensent que Pierre Nkurunziza a un projet, celui de modifier la constitution pour revoir un peu certaines dispositions de cette constitution et surtout ne plus tenir compte hein, de certaines dispositions des accords d'Arusha, ce qui va déboucher certainement à une quatrième candidature, si l'on peut dire, en 2020.
Ce n'est pas à exclure et c'est justement pour ça que je dis que le quid pro quo en échange de la possibilité de Pierre Nkurunziza de rester président jusqu'en 2020, c'est de créer justement cet espace où l'on peut débattre démocratiquement, librement, sans crainte, sans menace de ce type de questions. Moi, je n'exclus pas du tout que certaines révisions constitutionnelles soient nécessaires, mais il faut le faire de façon ouverte, de façon transparente Et il faut surtout y associer toutes les, ce qu'on appelle les forces vives de la nation. Et donc, le quid pro quo pour le maintien de Pierre Nkurunziza au pouvoir serait de créer justement ce paysage-là, où par exemple, la révision éventuelle d'une constitution, parce qu'il y a certains éléments de la constitution qui pourraient être revus. Je ne donne qu'un seul exemple. On pourrait, par exemple, remplacer les deux vice-présidents par un premier ministre, ce qui serait d'ailleurs assez logique, puisque c'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement et pas le président de la République, et que c'est donc le premier ministre qui doit pouvoir engager la responsabilité de ce gouvernement. Donc je n'exclus pas que certaines modifications soient utiles et nécessaires, mais elles ne peuvent pas évidemment être imposées par une partie, ou un parti en l'occurrence, au détriment de tous les autres.
Oui. Est-ce que vous pensez que les consultations ouvertes donc à Arusha par le médiateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est, M. Benjamin Kapa, est-ce que ces consultations sont crédibles?
C'est difficile à dire pour le moment puisque ces consultations n'ont pas véritablement lieu. Bon, il y a des contacts bien évidemment, mais on peut difficilement parler ici de véritables dialogues puisque les partis ne se trouvent pas autour de la même table. En revanche, il n'est pas à exclure qu'un scénario comme celui que je décris, je dis bien comme celui que je décris, ça ne doit pas être évidemment exactement ce scénario-là, pourrait être un point d'accord après des négociations. Et donc, il faudra voir si ces négociations, ce dialogue, comme on l'appelle, aura effectivement lieu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Oui. La semaine dernière, la présidence de la République du Burundi a rendu public un mémorandum qui a, dans des propos peu amènes, hein, tiré à boulet rouge sur le Rwanda, que le gouvernement burundais accuse donc d'être à l'origine de cette crise politique et sécuritaire. Est-ce que vous pensez que ces accusations à l'encontre de Kigali sont fondées?
Je ne suis pas d'accord évidemment avec le document du bureau de communication de la présidence qui suggère que le Rwanda est à l'origine des problèmes du Burundi. Ces problèmes du Burundi ont commencé en fait déjà avant fin avril de l'année dernière lorsque le parti CNDD-FDD a avalisé la candidature du président Nkurunziza. Je dis d'ailleurs dans le document publié dans Iwachu que ces problèmes, notamment de fermeture de l'espace politique, datent de bien avant avril de l'année dernière. Mais il est vrai, donc le Rwanda n'est pas à l'origine des problèmes du Burundi, ce sont des problèmes nationaux, burundo-burundais, mais il est vrai que par la suite, et là il y a suffisamment d'indications qui vont dans ce sens, que le Rwanda a exacerbé ou tente d'exacerber cette situation, notamment et surtout en armant, en entraînant, en facilitant le recrutement de forces militaires ou de forces rebelles opposées au pouvoir burundais.
C'est-à-dire, le Rwanda est accusé également d'armer certains réfugiés burundais qui sont dans des camps de réfugiés au Rwanda.
Oui, tout à fait. Là, je pense qu'il y a trop de preuves pour ne pas le croire. Hein. Il y a pas que le dernier rapport du groupe des experts des Nations Unies. Il y a déjà eu un rapport du Human Rights Watch, un rapport de Refugees International, un rapport de quelqu'un, un Américain, qui avait travaillé dans ces camps de réfugiés. Je pense que là, les choses me paraissent assez claires. Et si le Rwanda nie tout cela, ben, c'est que le Rwanda nie toujours tout cela. Rappelez-vous, il y a quelques années, l'appui du Rwanda au mouvement rebelle congolais, M23, appui que le Rwanda avait toujours nié. Donc là, je ne pense pas qu'il faille faire trop cas des démentis rwandais. Je pense que la réalité est là. Il faudrait que ça cesse, parce que la situation au Burundi est déjà suffisamment complexe actuellement. Mais donc il est faux, et c'est un des thèmes développés dans ce document du bureau de communication du président Nkurunziza, il ne faut pas non plus renverser les rôles et dire que le Rwanda est responsable. Le Burundi ou le système politique, les acteurs politiques burundais sont responsables de cette situation. Et le Rwanda, au lieu d'exacerber cette situation, fait mieux de ne pas intervenir dans les affaires internes du Burundi.
Oui, le document de la direction donc, de la communication de la présidence du Burundi dit également avec des exemples que les quartiers contestataires, hein, les quartiers dits contestataires de Bujumbura étaient ou bien sont des quartiers animés ou bien peuplés par des Tutsis rwandais qui s'étaient réfugiés au Burundi vers les années 60.
Oui, il y a de la part du pouvoir burundais une attitude extrêmement ambiguë par rapport à l'ethnicité. Hein. D'une part, le gouvernement burundais dit qu'un génocide est impossible au Burundi, ce que je veux bien croire. Mais d'autre part, il tente régulièrement, il le refait dans le document en question, il tente d'injecter une dose d'ethnicité dans le dossier politique. Je pense que ce n'est pas sage et je suis content d'ailleurs que jusqu'à présent, du moins, les Burundis n'en veulent pas, hein, que cette mayonnaise apparemment ne prend pas. Un des grands succès du Burundi, justement, après l'accord d'Arusha, a été de gérer convenablement l'ethnicité comme problème politique. Et c'est une performance extraordinaire si l'on voit l'histoire des conflits causés par la manipulation de l'ethnicité et le nombre de victimes que tout cela a causé au Burundi. Et donc il faut absolument sauvegarder cela, tant du côté burundais que du côté rwandais.